De retour à Délirium environnemental, toujours Sofiane Legendre au micro et toujours en compagnie de l'équipe magique de Nicolas, un Patrick et un Hugo. On vous parle, donc aujourd'hui, on vous faisait une revue de l'actualité de tout ce qui s'était passé cet été au Québec et autour de la planète. On en est sur un dossier qui, ma foi, risque de vous mettre le feu. La question, on y a été largement sur les questions d'énergie, donc changement climatique, énergie, transport. Il se passe des choses pas catholiques à Gros Kakuna. Nicolas Milot, tu vas m'en parler, mais tu vas commencer par me dire, c'est quoi ça, un Gros Kakuna?
Eh bien, non, ce n'est pas une espèce de poisson en mutation dans le golfe du Saint-Laurent.
Ah non?
Vous savez, l'hiver dernier, on a parlé beaucoup du sourois et même beaucoup trop du sourois en comparaison à d'autres problématiques environnementales. Et pendant ce temps-là, eh bien, au Québec, il y a deux projets, non pas un, mais deux projets de ports méthaniques qui ont vu le jour. Il y en a un, donc, à Gros Kakuna, qui est une petite municipalité tout près de Rimouski, qui est porté par TransCanada et Petro-Canada. C'est un projet de 1 milliard de dollars.
Un milliard?
C'est un milliard de dollars.
Qu'est-ce qu'un port méthanier, Nicolas? Faut que tu me dises ça.
Un port méthanier. Eh bien, vous savez qu'il y a des consommateurs de gaz naturel un peu partout dans notre pays. Pas tant que ça au Québec en comparaison à l'ampleur des deux projets, mais bref, ça prend du gaz naturel. On en produit une certaine partie principalement dans le Grand Nord, la mer de Beaufort, qui est une source de gaz naturel pour le Canada. On est en train de parler de prospection gazière dans le Saint-Laurent, on en parlera plus tard dans l'émission, mais l'essentiel de notre gaz naturel vient de l'extérieur. Et pour qu'il arrive, eh bien, ça prend une place parce que les bateaux qui transportent le gaz naturel sous forme liquide puissent, dans le fond, le déverser dans un réseau de gazoduc qui va pouvoir acheminer ça aux différents endroits d'utilisation dans le pays. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a un projet donc qui est sur la table à Gros Kakuna, un projet donc d'un milliard, comme je le disais, qui n'attire pas vraiment d'opposition du milieu présentement.
Ben d'abord, peut-être parce que ça s'appelle du gaz naturel. Je vais vous poser une question niaiseuse. C'est pas naturel, ça? Ça doit pas être dangereux.
Ah ben ça, tout le monde qui sont les promoteurs de ces projets-là vous diront exactement cette idée-là. Il y a les gens par exemple du Creux Bas-Saint-Laurent, donc qui s'occupent de la région où Gros Kakuna se situe, qui eux par exemple se posent de sérieuses questions. C'est beau, mais s'il y a un accident, et là ça c'est la grosse question, les questions de sécurité autant environnementale que pour les communautés qui sont tout près de ce site-là. Et ce qui arrive, c'est que parallèlement à ça, il y a un autre projet d'un port méthanier qui, lui, aurait lieu, donc serait réalisé à Lévis-Beaumont. Donc, c'est un des arrondissements du nouveau Gros Lévis, si on peut le comparer à Gros Kakuna, qui, lui aussi, est un arrondissement. Donc, qui, lui, est mis de l'avant par Gaz Métro. Donc, là, on voit deux groupes qui s'opposent. Et ces deux projets-là seraient d'envergure à permettre à 500 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel.
C'est combien d'éléphants, ça, là?
Ça, on a déjà fait la comparaison. C'est très difficile, mais regardez, 500, mon Dieu. On s'éternisera pas là-dessus. Allez voir nos revues de presse et tout sera là-dessus. Eh bien, ce qui arrive, c'est que 500 millions de pieds cubes par jour, eh bien, c'est beaucoup trop pour le tuyau qui servirait à transporter ça. Parce que présentement, il y a un gros gazoduc qui se promène sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, qui arrête à Saint-Nicolas, qui lui peut pas absorber les deux. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on a une guerre complètement entre deux promoteurs pour ce projet-là. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on creuse un peu, c'est que TransCanada Énergie et Petro-Canada, eux, avaient l'idée du même projet, mais dans le Maine. Sauf que le Maine, la population s'est mis, dans le fond, a mis ses culottes, sont allés en référendum et ils ont complètement refuser ce projet-là. Je pense que le référendum s'est soldé à 97% contre, puis un 3% de la population qui était pour. Ça a été complètement refusé par la population. Et là, ce qu'on a, c'est que TransCanada Énergie et Petro-Canada, eux, ben, veulent dans le fond déplacer ce projet-là au Québec. Donc, on est en mesure de croire que tout ce beau gaz naturel-là, ces 500 millions de pieds cubes par jour, n'irait pas au Québec, n'irait pas au Canada. Ça va aller aux États-Unis.
Eh bien, ça, c'est quand même à voir, parce que, vous savez, au Québec, l'été passé, on s'en est fait passer une solide et une petite rapide pour une des rares fois. Le gouvernement libéral, je parle au niveau provincial, a joué d'une façon magnifique ses cartes au niveau politique en nous disant qu'il ne ferait pas la centrale thermique du Sourois, qui, je vous le rappelle, est alimentée au gaz naturel, mais allait faire plutôt une centrale de cogénération qui s'appelle la centrale de Bécancour. C'est le même principe, sauf que la centrale est un petit peu plus petite. Et évidemment, Bécancour va fonctionner au gaz naturel. Donc, il ne faut pas croire que ce gaz naturel-là va tout venir de l'Ouest canadien, parce que présentement, il vient d'ailleurs de l'Ouest canadien, et que probablement que ces terminales de méthaniers-là seraient rentables justement du fait que il y aurait une demande de gaz qui viendrait par hasard d'une grosse centrale thermique. Donc, c'est à voir qu'est-ce qui va se passer avec ça, parce que mais en fait, le prix du gaz est à la hausse, déjà en partant, mais comparativement au pétrole, c'est probablement une voie d'avenir. l'avenir pour plusieurs personnes.
Là, on parle de d'autres. En tout cas, falloir éclaircir un peu la question. Là, on parle de gaz naturel sous forme liquide, puis on parle de centrales thermiques. Les centrales thermiques, si ma mémoire est bonne, émettent des gaz à effet de serre, et c'est pour ça qu'on
utilise du gaz naturel.
Utilise le gaz naturel, mais sont polluantes dans le sens qu'ils émettent des gaz à effet de serre. Mmh. On s'entend?
Oui.
Le gaz naturel sous forme liquide, c'est polluant uniquement quand il y a des accidents.
Ce qui peut arriver, mais
c'est parce qu'on le brûle, le gaz.
C'est ça. Dans le fond, c'est un gaz qui va être brûlé. Présentement, dans le fond, on est en même de se demander qui va être l'utilisateur de ce nouvel apport de gaz naturel-là dans l'est du continent. Nous, les Québécois, on n'a peut-être pas assez besoin de chauffage pour justifier 500 millions de pick-up de plus par jour. Les usines, donc, de cogénération dont Patrick nous parle, c'est une opportunité. L'utilisation américaine, une autre. Bref, ça sent pas bon.
Ça sent pas bon. Ça sera pas la première fois que ça sentait pas bon. Ouais, ça va faire le tour pour Gokakuna. Je pense qu'on en a parlé amplement, on y reviendra toute l'année. Je sais qu'on va continuer à s'insurger à ce sujet-là, probablement. La Régie de l'énergie s'est prononcée sur quelques questions cet été, semble-t-il. J'imagine, parce qu'eux travaillent pendant que nous, on est en vacances. C'est pas un peu, en tout cas, on en reparlera. Patrick Bonin, c'est toi qui me parle de ça, en fait, qui nous parle de ça.
Ben, je vous ai déjà tendu une petite perche en vous disant, justement, qu'on s'en allait avec une centrale thermique et qu'on n'avait pas passé le surroi. Ben, je vous récapitule en 2 minutes ce qui s'est passé avec la Régie de l'énergie. C'est un grand défi, mais je vais essayer de le relever. Fait que dans le fond, on voulait faire la lumière sur, justement, la question du surroi au Québec. Et le gouvernement, comme je l'ai dit, libéral, a décidé de ne pas passer le surroi parce que c'était une patate chaude. C'est devenu trop dangereux au niveau politique. Toute la population savait c'était quoi, donc personne ne voulait toucher à ça. De façon admirable, ils ont mis le surroi de côté et ils ont ressorti ce qu'on appelle une centrale de cogénération qui, au lieu d'être à 58% comme le surroi plus ou moins, est à 62% d'efficacité au gaz naturel. Donc, il y a une petite différence, mais ça va quand même augmenter les gaz à effet de serre au Québec de 1,7%. Ce qui arrive, dans le fond, c'est que la Régie a dit on n'a pas nécessairement le surroi, la centrale thermique au surroi, n'est pas indispensable au Québec, mais ce serait bien de l'avoir si jamais on a des problèmes justement d'efficacité, non pas d'efficacité énergétique, pardon, mais de répondre à la demande énergétique.
C'est ça, elle n'était pas nécessaire, mais souhaitable.
Exactement. Pas indispensable, mais souhaitable.
Ah, voilà.
Donc, le gouvernement a mis le surroi de côté et s'en vient avec une centrale thermique. Dans le fond, c'est ce qui est encore plus drôle, c'est que là, on a 500 MW avec Bécancour, mais également Hydro-Québec a fait un autre appel de 800 MW. Donc, on risque d'avoir 1350 MW au Québec produites à partir de gaz naturel, au lieu d'avoir un 800 MW qui s'appelait le surroi.
Bon.
En plus, on a une population essoufflée de se battre contre les centrales thermiques, donc ces projets-là passent beaucoup plus facilement maintenant que les groupes ont déjà tout mis leur jus sur le surroi.
Pire encore, en fait, mais c'est vrai, il y a une nouvelle loi justement de pourcentage d'efficacité pour les centrales thermiques au Québec que le gouvernement a passé en décembre passé, et la centrale de Bécancour ne le respecte même pas. Donc le ministère de l'Environnement, le ministre qui aurait pu se servir de la loi québécoise en environnement pour dire c'est inacceptable, eh bien, il s'est caché dans son petit trou encore une fois.
Et une petite nouvelle qui est sortie cette semaine, vous avez sûrement vu le grand titre dans les journaux, les États-Unis font la leçon au Canada pour ce qui est des gaz à effet de serre. Eh bien, on s'est fait rabattre les oreilles toute la semaine par tous les ministres de l'Environnement du Québec et du Canada, que la grosse différence entre les deux était de toute façon retournée vers les États-Unis parce qu'on produit beaucoup de gaz à effet de serre pour produire de l'électricité aux États-Unis. Et là, depuis le début de ce dossier-là, on se fait dire que cette électricité n'ira pas aux États-Unis parce que c'est une question de sécurité énergétique pour le Québec. Il y a peut-être des questions à se poser là-dessus aussi.
Bon, mais pour tous ceux qu'on aurait étourdis avec ces questions-là, vous inquiétez pas, on va y revenir amplement tout au long de la saison 2004-2005. Gaz thermique, énergie, gaz naturel. Je pense pas que ça soit absolument clair pour tout le monde. On y reviendra. On va parler de, si vous voulez, au retour de la musique, on parlera de ce qui se passe dans le fleuve Saint-Laurent, parce que peut-être pour ceux à qui ça sonne pas une cloche, gaz naturel, gaz carbonique, etc., ben pétrole, baleine et fleuve Saint-Laurent, peut-être que ça va plus vous interpeller. Moi, en tout cas, ça me donne le goût de crier. Celle-là, je la comprends.
Yeah.
de retour à Delirium environnemental. On vous parle toujours de ce qui a marqué l'été 2004 en environnement au Québec. Notre beau fleuve Saint-Laurent, ce joyau, a donc été attaqué. Non. On se souvient que l'hiver passé, on s'est mis à parler de faire de l'exploration gazière et non pas encore de l'exploitation, mais bien la phase précédente qui est l'exploration gazière. Est-ce que ce dossier-là a avancé? Patrick Bonin, tu m'en parles un peu.
Ben, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait un bureau d'audience publique en environnement au Québec, justement, sur les enjeux de ces levées-là sismiques. On envoie des ondes pour savoir si on a du pétrole dans notre fleuve. Eh bien, le 31 août dernier, il a déposé son rapport au ministre M. Mulcair, Thomas Mulcair, ministre de l'Environnement au Québec, et qui a, lui, comme à l'habitude, 60 jours pour rendre sa décision par rapport à ça. Ce qui est drôle, par contre, c'est que pendant que, justement, on étudie à savoir s'il y a des impacts là-dessus, eh bien, il y a une étude qui était financée, entre autres, par Hydro-Québec, qui servait, justement, à évaluer le potentiel gazier des fonds marins de l'estuaire du Saint-Laurent. Donc, il y avait des gens qui, cet été, s'amusaient à tester avec des ondes, justement, voir s'il y avait du gaz dans le fond de notre beau fleuve. Et ça, évidemment, c'est des ondes moins fortes que ce qu'ils envisagent de faire. Mais par contre, c'est vraiment un endroit où on a justement le rorqual bleu qui s'alimente dans ce secteur-là pendant l'été et qui, je vous le rappelle, est une espèce en voie de disparition. Donc, on a tout simplement décidé de sonder en douce et tout près, entre autres, du parc marin du Saguenay-du-Saint-Laurent, là-bas.
Ah, belle idée. C'est vrai que le tourisme là-bas, hein, c'est vraiment pas une bonne source de revenus pour ces gens-là. Toutes les millions de personnes qui se déplacent pour aller voir les baleines, ça rapporte
c'est
pas plate, suffisamment.
T'es obligé de prendre un kayak pyramé puis voir des baleines.
Ah, c'est vrai, c'est fatigant. Merci beaucoup, Patrick Bonnet, de nous avoir tenu au courant de cet important dossier de l'exploration gazière dans notre fleuve magnifique. Nicolas Mainville, tu me parles de la Banque mondiale qui, depuis les années 80, prend des décisions absolument, mais ma foi, intéressantes.
Ben oui, je vous parle de la Banque mondiale parce que, vous savez, les questions énergétiques sont évidemment centrales aux questions environnementales. On se retrouve avec des gros questionnements sur l'orientation énergétique des différents pays sur cette planète. Et puis, la Banque mondiale joue un très grand rôle, surtout dans les pays en voie de développement. Question énergétique et question orientation de ces pays-là, point de vue énergétique. Et donc, avait demandé cette Banque mondiale en 2000 de qu'il y ait un rapport qui soit fait, une évaluation stratégique planétaire sur comment la Banque mondiale devrait investir son argent sur les questions énergétiques. Donc, elles ont engagé le ministre environnemental de l'Indonésie pour faire un rapport officiel sur ce qu'il devrait faire. Le rapport qui a été déposé au courant de l'année, qui vient de passer, qui nous dit, écoutez, d'investir dans le pétrole, le gaz naturel, le charbon et les mines ne sont pas un bon investissement. Vous devriez de plus en plus donner votre argent pour des projets d'énergie. Énergie renouvelable. La réponse de la Banque mondiale, en concordance avec les intérêts états-uniens, a été non, désolé, on n'accepte pas ce rapport-là. Malgré qu'on vous l'a demandé, elles ont décidé de garder le cap sur le pétrole, le gaz naturel et les mines, encore une fois, pour les 5 prochaines années, puisque, évidemment, les pressions sont extrêmement intenses, point de vue compagnie pétrolière, notamment. Et puis, on se retrouve avec, encore une fois, la même dynamique qui s'applique dans les pays en voie de développement, mais dans l'orientation énergétique planétaire de façon générale. C'est-à-dire qu'on met pas encore le cap sur les renouvelables, sur les énergies renouvelables, dans cette grosse institution qui est la Banque mondiale. Évidemment, elle n'a pas le dernier mot pour tous les projets, mais elle a une influence majeure, puis je pense que c'est une grosse nouvelle. Si vous voulez lire sur ce dossier-là, il y a Planet Ark qui fait un bon dossier, planetark.com, si ça vous intéresse.
Et encore une fois, ces nouvelles-là seront disponibles sur notre site Internet au www.radiodelirium.net. Merci beaucoup, Nicolas Mainville. Je trouve ça un peu triste, mais bon, faut croire que ces gens-là se tiennent sur Wall Street plus que ailleurs, où est-ce qu'on réfléchit peut-être autrement le monde dans lequel on vit. Ici au Québec, on a décidé de se lancer dans des sources d'énergie alternatives. Le biodiesel, enfin, on va en produire. Hugo Lachapelle, tu nous parles de ça.
Eh bien, oui.
Laissez-moi me retrouver dans mes feuilles et je vous en parle.
Je n'ai pas sensible de parler
peut-être
de ça.
Que quelqu'un pourrait m'expliquer en deux mots d'abord qu'est-ce que c'est du biodiesel. Oh, la question piège!
En fait, le biodiesel, c'est un produit qui est constitué des restes de... En fait, on peut le faire de différentes manières. C'est un combustible qu'on produit avec, la plupart du temps, du colza ou du soja. Mais ici, au Québec, on a décidé d'en produire avec les quelques 15 000 tonnes des restes d'animaux des abattoirs.
Ah!
C'est une initiative de Maple Leaf Canada.
Non, connaissez-vous?
Et c'est une initiative qui vise à réutiliser et ensuite, en plus des 10 000 tonnes d'huile de friture, on vise à réutiliser tous ces déchets-là de notre consommation pour en faire du combustible. Alors, on parle de quelques 35 millions de tonnes qui vont être produits, 35 millions de litres de ce combustible biodiesel qui vont être produits. Malheureusement, on ne pourra l'utiliser au Québec parce que pour le moment, le gouvernement du Québec ne donne pas les exemptions de taxes nécessaires à faire en sorte que ce produit-là soit valable, soit rentable. Et donc, c'est le gouvernement ontarien et différents organismes ontariens qui vont acheter tout le beau biodiesel qu'on produit ici.
Donc, les autobus qu'on voyait rouler à la STM à Montréal, qui utilisaient ce biodiesel-là, ont arrêté le programme, c'est ça?
Effectivement, il y avait une usine pilote, un projet pilote qui a développé, qui produisait je crois, 35 000 litres cette fois-ci de biodiesel, qui était utilisé par 135 autobus dans la ville de Montréal, et ça a duré environ 2 ans. On a mis fin au projet.
Bon, on a coupé les subventions, justement.
Tout s'en va en Ontario. On a une nouvelle usine, mais ça s'en va en Ontario.
C'est bien cela.
Ben, au moins, on produit ici. En tout cas, les végétariens auraient eu un peu de misère à utiliser ce gaz-là, parce que moi, personnellement, ça me met très mal à l'aise de savoir que je consomme des carcasses d'animaux qui ont été torturés.
Toi, t'aimes mieux consommer des vieux combustibles fossiles.
J'aime mieux pédaler sur mon vélo quand c'est possible, puis j'aime mieux avoir une Prius, bon, c'est tout. Hydro-Québec, ses réservoirs sont pleins. Un bel été de pluie.
Ben
Nicolas
oui,
Milo.
Hydro-Québec, dans le fond, c'est une petite nouvelle très rapide, mais pour ceux qui ont fait leur saison touristique au Québec, ben la pluie vous a peut-être pas été très très agréable au cours de l'été, mais dites-vous que les réservoirs des barrages dans le nord du Québec, eux, ont pu avoir un petit peu de répit quant à la quantité d'eau qui se retrouve derrière. Donc, on vous donne des années records pour la Grande Rivière de la Baleine, la Petite Rivière de la Baleine au niveau des débits. Même chose, donc des étés au-dessus de la médiane pour la Eastman, la Rupert, toutes des rivières qui sont très très, donc convoitées et utilisé par Hydro-Québec pour ce qui est de la production d'hydroélectricité. Mais je vous rappelle qu'Hydro-Québec, malgré tout, refuse encore de dévoiler l'état actuel des stocks d'eau derrière les barrages.
Parce que pour Hydro-Québec, c'est un secret commercial.
C'est une question de sécurité énergétique.
Ah voilà, donc pour eux, c'est un secret commercial, sécurité énergétique. Sauf qu'on se souvient que c'est Stephen Guilbeault de Greenpeace qui nous disait qu'entre autres, en Colombie-Britannique, c'est toujours accessible le niveau d'eau dans les réservoirs.
Via Internet. Hein.
Via Internet, directement sur le site d'Hydro-BC, j'imagine.
Oui, exactement.
Merci beaucoup, Nicolas Milo. Une petite vite en terminant, peut-être? Ou
ben,
Patrick?
Ouais, peut-être juste vous rappeler que les projets de mines centrales au Québec, soit des centrales hydroélectriques, encore une fois, mais des toutes petites centrales, seulement 50 MW, là, pour, en mettant en moyenne sur des rivières, eh bien, c'est relancé de plus belle. On a eu un référendum cet été pour la Trois Pistoles, qui est une rivière magnifique, encore une fois, qu'on veut harnacher. Et dans le fond, juste pour vous dire qu'on avait mis ça de côté et qu'on a une politique de l'eau au Québec, qu'on était censé l'appliquer au niveau du provincial, au niveau du gouvernement fédéral, mais qu'on ne le fait pas et qu'on est obligé de protéger toutes nos rivières une après l'autre parce qu'on essaie de les harnacher pour des poignées de mégawatts. Fait que c'est beau le patrimoine qu'on va laisser à nos enfants. Hein?
Ben, peut-être juste en terminant, une petite phrase clé que moi j'aimais bien, c'est tous les jours qu'on change le monde à la mesure de nos possibles. Pour tous ceux qui sont révoltés des décisions d'Hydro-Québec, pensez donc à fermer vos lumières.
Excusez-moi, dans le fond, j'ai pas le droit de parler des rivières qui sont en région parce que moi j'habite à Montréal, donc
c'est vrai.
C'est
une déclaration de notre ministre de l'Environnement, M. Mulcair, qui a dit que
les cœurs sensibles du plateau devraient pas se prononcer sur ce qu'on fait en région au Québec. Et ça va revenir au coup de masse.
Pis si j'habite dans le centre-sud, j'ai-tu le droit?
Je sais pas.
Nous avons toujours vécu dans l'idée que la planète était infinie, que l'on pouvait pomper autant de ressources qu'on voulait et qu'il en resterait toujours. Maintenant, nous sommes confrontés à un fait très simple, c'est que la planète n'est pas infinie, que ses ressources ne le sont pas non plus et que nous sommes passablement avancés dans leur épuisement.
On la traite comme on veut, elle est la planète Terre, se fait virer tout à l'envers. Et on défonce ses frontières et l'on oublie le nom de sa mère. On a mis le feu sur ses aïeux, le ciel qui est bleu sur tous ses bleus. On l'a traîne blessée, elle se sent menacée, s'est faite souvent violée en guerre. Cette poupée déshabillée a oublié le nom de son père. On lui a dit va donc te faire foutre, tout ce qu'elle a envie c'est de crier mais laissez-moi être moi-même, sinon je vais m'éteindre. S'il vous plaît laissez-moi respirer, j'ai un urgent besoin. Pas faite de fer, elle est la ronde terre et en a assez qu'on la blesse. Mais on la fuit comme la peste, elle placera sous elle ses restes. Et avec tous ses ancêtres,
Elle sait maintenant qui est son maître. On la traite comme un chien, pourtant elle nous soutient et aimerait bien qu'on la respecte. Toute souillée de ses déchets, elle pleure et crache sur nos excès. Kyoto la met sur les nerfs, elle dit qu'elle a assez souffert. Mais Kyoto la met sur les nerfs, elle dit qu'elle a assez souffert. Mais laissez-moi être moi-même, sinon je vais m'éteindre. S'il vous plaît, laissez-moi respirer, j'ai un urgent besoin d'air. Laissez-moi faire par moi-même, laissez-moi, je désespère. Tendre le bleu de mes mères et nager sur mes hivers.
Retour à Delirium Environnemental. On vient d'entendre Catherine Major, une petite Québécoise bien de chez nous, qui nous chantait Swing la Terre. Ça, c'est de son album Par-dessus bord. Ça me fait penser à la revue à Babord, mais bon, on vous en reparlera sûrement un autre tantôt. On va parler, on n'a pas beaucoup parlé, on va terminer, il nous reste peu de temps, donc on va vous parler des changements climatiques. Certains y croient, certains n'y croient pas. Ça provoque un petit éclat de rire. Nicolas Mainville, toi vraiment, c'est ta cause, les changements climatiques, tu m'en parles.
C'est pas que c'est ma cause, mais c'est dur de passer à côté. Juste une petite vite là-dessus. Bush, vous connaissez Monsieur George W. Bush?
Il a fait une
annonce assez officielle la semaine passée. Et il y a 2 ans, le conseiller scientifique de Bush disait, écoutez, les gaz à effet de serre provoquent les changements climatiques. Et Bush avait dit, non, c'est un flop bureaucratique, il n'y a aucune preuve scientifique. Il avait réfuté carrément, il n'avait pas décidé d'avouer que ça existait pour de vrai. Eh bien, le Congrès s'est mis de la partie cette fois-ci avec les secrétaires en énergie et en commerce et avec les conseillers scientifiques de Bush pour dire, écoutez, les changements climatiques sont liés aux gaz à effet de serre. Et Bush, pour l'instant, n'a rien dit contre. Donc, apparemment, l'administration Bush est en train d'accepter que les changements climatiques existent et qu'ils proviennent des gaz à effet de serre. Incroyable.
Bon, ben on aurait peut-être vu la lumière au bout du tunnel dans sa tête pour une fois dans sa vie?
Ben, s'il n'est pas convaincu, je vais y présenter cette nouvelle-là, puisqu'il nous écoute tous les jours. Les nouvelles en environnement cet été ont été quand même assez perturbantes point de vue changement climatique, notamment une que je suis allé chercher sur Planet Ark, encore une fois, planetark.com, qui nous parle des glaciers péruviens. Vous savez, la cordillère des Andes est bondée de plusieurs glaciers, et puis il y a une étude qui a été faite par le gouvernement péruvien pour découvrir que d'ici 2015, on parle de 2015, il n'y aura plus aucun glacier au Pérou, car ils ont tous fondu. Ce que ça veut dire, ces chiffres-là, évidemment, c'est assez alarmant parce que, vous savez, premièrement, les eaux de fonte de glaciers sont les principales sources pour l'agriculture, pour l'industrie, pour l'eau potable, pour les Péruviens en général. Donc, évidemment, on parle d'une source d'eau importante. Ce que ça nous annonce, ces beaux petits chiffres-là du gouvernement péruvien, qui a été d'ailleurs fait en association avec la NASA, c'est que on s'attend à voir des quantités impressionnantes de glissements de terrain, puisque ces gros blocs de glace-là sont en train de fondre. On se retrouve avec un risque majeur, malgré que c'est une industrie assez importante au Pérou, le tourisme associé au ski et à l'escalade de glace sur les pics rocheux, mais sur les pics de glace dans les glaciers. Eh bien, il y a de plus en plus d'événements qui se répètent par rapport au glissement de terrain et glissement de boue, notamment 35 personnes qui sont mortes l'année dernière dues à ça. On se rappelle, dans les années 70-80, il y a eu
un total de 25 000 personnes qui sont mortes de glissements de terrain dus justement à ces fontes de glace. Donc évidemment, une nouvelle comme ça qui passe un petit peu inaperçue, mais qui nous laisse quand même une certaine image sur l'ampleur des changements climatiques et de la rapidité de la fonte des glaces. Vous savez que les Andes sont exactement, cette partie des Andes est exactement sous l'équateur, donc c'est la partie la plus tropicale, donc la plus affectée par l'augmentation des températures.
Eh bien, bonne nouvelle, par contre, au niveau des changements climatiques, on va essayer de se réjouir avec cette nouvelle-là. Pour la première fois en Europe l'an passé, en 2001 et 2002, c'est pas clair, eh bien, on a réussi à diminuer les émissions de gaz à effet de serre en Europe de 0,5%. C'est loin de l'objectif qu'on veut atteindre, je vous le rappelle, mais on se rend compte que eux sont sur la bonne voie. Et ce qui est bizarre, c'est pas le dioxyde de carbone, le CO2 qu'on entend toujours parler, eh bien, c'est le méthane qui a permis cette réduction-là, le méthane qui est produit, entre autres, avec la putréfaction des déchets. Et juste vous rappeler que le Canada vient de signer une entente avec l'Ontario justement pour arrimer leur plan face au changement climatique, chose que le Québec n'a pas encore fait et qui est en train de traîner la patte drôlement là-dedans et de prendre beaucoup de retard, et ça en vient dangereux parce que je vous expliquerai un petit peu plus tard.
Merci. Et pour ceux qui n'auraient pas compris le lien entre les changements climatiques et les gaz à effet de serre, c'est parce qu'on pense que les gaz à effet de serre participent largement au changement climatique. Merci beaucoup pour nous avoir parlé des glaciers qui vont au Pérou, Nicolas Mainville. Merci de nous avoir parlé de l'Europe qui arrive à faire des efforts. Il paraît que quand les vaches pètent, font des flatulences, ça provoque beaucoup de méthane. Peut-être qu'on pourrait fermer tous les abattoirs de ce monde et laisser Fleurette brouter en paix. En Gaspésie, on veut creuser des puits de pétrole.
Pas seulement en Gaspésie, en fait, partout au Québec, ça sent l'hydrocarbure. J'ai deux nouvelles ici à vous présenter. D'une part, il y a Hydro-Québec qui s'est mis à la recherche de pétrole, très vite fait. Pétrole dans le sous-sol gaspésien. C'est sur terre. C'est juste à côté de la ville de Nouvelle, près du parc Miguacha, un parc qui a été classé réserve mondiale par l'UNESCO.
Mm-hmm.
D'une part, puits de forage, c'est seulement des projets pilotes, c'est de l'exploration. Mais en plus, mais encore, il y a le géant albertain Talisman Énergie qui, lui, est en train de faire des pressions pour demander des permis d'exploration au Québec. En fait, ce géant-là vient de trouver certaines sources de pétrole dans l'État de New York, et puis en se disant, bon, on a les mêmes formations géologiques dans le coin du lac Saint-Pierre, et donc, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Tout est encore très...
Fait qu'en plus de miser sur une énergie polluante, ce serait des États-Unis qui viendraient forer chez nous.
Non, les Albertains.
Les Albertains.
Oh. Et juste pour ajouter, le lac Saint-Pierre est également réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO.
Eh oui!
Bravo!
La plus grosse éronnière au monde.
C'est toute l'ironie du sort. On peut faire ces choses-là juste à côté. C'est seulement sur un territoire, une réserve, un parc qu'on doit s'abstenir.
Ben, en tout cas, on en retient que vraiment, il y a des gens qui ont rien compris à l'état de la planète et surtout à l'état de dégénérescence avancée dans laquelle elle se trouve. Malheureusement, on va devoir finir ici. Notre temps est terminé, mais on vous revient tout de suite après pour plus de nouvelles. Mais je vous jure qu'on va vous parler d'autres choses que des changements climatiques au retour.